VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 26 septembre 2023, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer les titres, après le retrait militaire français du Niger, les États-Unis évaluent leurs options. Au Mali, la junte reporte à nouveau la présidentielle et le retour des civils au pouvoir. Mécontent de certains articles, le Burkina Faso suspend la diffusion de Jeune Afrique. La RDC et l'Ouganda disent avoir tué le tristement célèbre leader ADF, Mehdi Kaloubo. En Tunisie, 9 morts, dont 8 migrants africains dans un accident de la route. Refus de démissionner de Bob Menendez, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, poursuivi pour corruption. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, les États-Unis ont indiqué hier évaluer les différentes options concernant l'avenir de leur présence militaire au Niger, au lendemain de l'annonce par la France du retrait de ses troupes, une décision attendue depuis plusieurs semaines par Niamey. Le point avec Michel Joseph.
Tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons également d'étudier toutes les mesures futures qui donneront la priorité à nos objectifs à la fois diplomatiques et sécuritaires, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d'une conférence de presse dans la capitale kényane, Nairobi, où il est en visite. Dimanche soir, le président Emmanuel Macron avait annoncé le retour à Paris de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, et le retrait du Niger de 1500 militaires français d'ici la fin de l'année. Deux exigences des militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey. Les militaires au pouvoir à Niamey ont célébré dimanche soir une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les États-Unis ont quelque 1100 soldats stationnés au Niger. Nous n'avons apporté aucun changement significatif au positionnement de nos forces et nous souhaitons réellement une solution diplomatique, une issue pacifique, a assuré le secrétaire américain à la Défense qui a refusé de commenter la décision de Paris. Le Pentagone avait annoncé le 7 septembre repositionner ses troupes par précaution, transférant certains soldats d'une base de Niamey vers une base plus au nord dans la région d'Agadez.
Au Mali, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé que les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les deux tours de la présidentielle connaîtront un léger report. Pour des raisons techniques, de nouvelles dates seront communiquées ultérieurement, a-t-il dit. Report également des législatives prévues à l'origine fin 2023, le gouvernement disant laisser aux futures autorités le soin d'établir un nouveau calendrier. Il s'agit là d'un nouvel ajournement de la part de la junte au pouvoir depuis 2020 par rapport aux engagements pris sous la pression de la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les supports de diffusion de l'hebdomadaire français Jeune Afrique à compter du même jour. Le gouvernement fustige un article qu'il qualifie de mensonger, publié sur le site de ce magazine intitulé « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée ». De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'article du journal français intitulé « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée » est mensonger et l'hebdomadaire n'est pas à son premier forfait selon le gouvernement. Avec cet article, Jeune Afrique a choisi son camp, selon le gouvernement, qui est celui de l'intoxication et de la désinformation orchestrée, précise-t-il, par des officines occultes dont les maîtres à penser essaient de semer le chaos dans le pays pour mieux la servir et l'exploiter. Ainsi, le gouvernement décide, dit-il, en toute responsabilité de la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les supports de diffusion de Jeune Afrique au Burkina Faso, à compter d'hier lundi. Des chaînes françaises comme RFI et France 24 ont déjà été suspendues. Des journalistes de Libération et du journal Le Monde ont été expulsés. Dernièrement, Radio Omega, une station locale, a été suspendue et a repris ses programmes un mois après. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée a libéré 10 nouveaux otages parmi la trentaine de personnes enlevées lors d'une attaque d'une université dans le nord-ouest du pays, a appris hier l'AFP de sources militaires et proches de l'université. Vendredi à l'aube, plusieurs dizaines d'hommes armés avaient pris d'assaut une université dans l'état de Zamfara et des foyers d'étudiantes, enlevant une trentaine de personnes, dont au moins 24 étudiantes. Il s'agit du premier enlèvement de masse d'étudiantes depuis que le président Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir, avec la promesse de venir à bout des graves problèmes de sécurité du pays. L'armée congolaise et les autorités ougandaises disent avoir tué un chef renommé des rebelles ADF dans un raid à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le point avec Eli Isango.
Medine Kalubo, connu sous les sobriquets des Punishers, a été tué dans un raid la nuit de samedi à dimanche, non loin du village congolais d'Intoroko, près de l'Ouganda, indique les porte-parole des opérations des forces armées de la RDC dans la zone. Le président ougandais a confirmé la mort de ses célèbres chefs des ADF dans un message écrit à sa population. Yoweri Museveni rappelle que sa localisation a été faite par les régiments des fonctions spéciales ougandaises. Le Punisher était, selon Museveni, l'auteur des attentats qui ont coûté la vie à 4 personnes et blessé de nombreux autres en 2021 à Kampala. Il était le relais du groupe État islamique dont il diffusait des vidéos, mais aussi un opérateur de drones des rebelles dans des attaques à Beni et Irumo.
En Tunisie, la protection civile a annoncé hier que 9 personnes, dont 8 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, ont été tués dans un accident de la route survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre du pays. L'accident, qui a également fait 5 blessés, dont 4 Africains subsahariens, s'est produit lorsque la camionnette qui les transportait s'est renversée sur une route reliant les villes de Nasrallah et Manzelmiri, dans la région de Kaïroua. Selon la même source, ce genre d'accident est fréquent en Tunisie, notamment dans les zones rurales où beaucoup d'ouvriers utilisent des moyens de transport inadaptés, mais à moindre coût pour aller travailler dans les champs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le sénateur démocrate Bob Menendez, à la tête de la très influente commission des affaires étrangères du Sénat, a contesté son inculpation pour corruption par la justice fédérale et a refusé de démissionner. Le point avec Nani Talani.
L'élu démocrate d'origine cubaine a qualifié les accusations du procureur fédéral de New York, Damian Williams, rendu public vendredi, d'allégations, et simplement ça, des allégations. Bob Menendez aurait accepté, avec sa femme Nadine, entre 2018 et 2022, des centaines de milliers de dollars de la part de 3 hommes d'affaires de son État, le New Jersey, pour enrichir ses hommes d'affaires et soutenir le gouvernement égyptien. D'après l'ordonnance d'inculpation, le FBI, la police fédérale a découvert en juin 2022, au domicile du couple Menendez, 500 000 dollars en liquide et 13 lingots d'or. Depuis 30 ans, j'ai retiré des milliers de dollars en liquide de mon compte épargne personnel que j'ai gardé en cas d'urgence en raison de l'histoire de ma famille confrontée aux confiscations et saisies à Cuba, a justifié Robert Menendez. Accusé par la justice d'avoir favorisé le gouvernement égyptien lors des ventes d'armes, il a rappelé qu'il a interpellé directement le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi sur les atteintes aux droits humains. M. Menendez a déjà été mis en examen en 2015, mais son procès a été annulé 2 ans après, faute d'un verdict unanime des jurés. En 2018, l'administration Trump a aussi demandé à un juge d'abandonner toutes les poursuites contre lui.
Des milliers d'habitants du Nagorno-Karabakh se sont réfugiés en Arménie malgré la promesse réitérée lundi par le président de l'Azerbaïdjan que seraient garantis les droits des Arméniens qui resteraient dans ce territoire séparatiste enclavé dont son armée a repris le contrôle la semaine dernière. Lundi soir, les autorités séparatistes ont par ailleurs fait état de l'explosion d'un dépôt de carburant qui a fait plus de 200 blessés au Nagorno-Karabakh et demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. La Minute Éco, Nanit Talani.
En Somalie, avec l'essor de la construction, les femmes ingénieures bravent et démolissent les stéréotypes, car de nombreux parents désapprouvent de voir leurs filles collaborer avec des hommes. Les ouvriers font preuve d'insubordination quand ils sont supervisés par des femmes ingénieures. Ils pensent que nous sommes faibles comparés aux hommes, témoigne Iftine Mohamed, femme ingénieure à Mogadiscio. Le comité de suivi de la coopération entre le gouvernement burkinabé et la Banque africaine de développement vient de tenir sa première session. D'un montant de 825 millions de dollars, le portefeuille actif de la BAD au Burkina Faso comprend une vingtaine de projets. Parmi les secteurs clés figurent les transports, l'énergie, l'agriculture, environnement, l'eau, l'assainissement et le social. Pour terminer, l'Africa Investment Forum, le marché de l'investissement en Afrique, vient d'organiser des tables rondes d'investisseurs à Genève en Suisse afin de susciter l'intérêt pour des opérations bancables dont l'énergie, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière et d'autres secteurs dans lesquels l'Afrique dispose d'un avantage. Ces opérations, qui se chiffrent en milliards de dollars, seront présentées aux investisseurs lors des Market Days en novembre à Marrakech, au Maroc.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les pays attributaires des Cannes 2025 et 2027 seront connus à partir de demain mercredi au Caire, en Égypte.
Oui, pour la Cannes 2025, le Maroc, l'Algérie, le duo Bénin-Nigeria et la Zambie sont candidats. Sur la liste des pays candidats à l'accueil de la Cannes 2027, on retrouve l'Algérie, le Sénégal, l'Égypte, le Botswana et la candidature tripartite Kenya, Ouganda, Tanzanie. Notre consultant sportif à Casablanca, Amin Birouk, sera dans la capitale égyptienne pour l'attribution de ces Cannes 2025 et 2027. Il nous fait le point des candidatures présentes et leurs chances.
Alors tout d'abord, il y a la candidature pour la Cannes 2025 avec un grand favori, le Maroc. Les atouts du royaume chérifien ne sont pas des moindres. Outre les stades qui sont en cours de relooking ou de reconstruction et qui devraient être prêts pour l'échéance, avec l'augmentation de leur capacité, notamment à Rabat et à Tanger, qui devraient atteindre les 65 000 places assises. Le royaume chérifien dispose également d'infrastructures routières, autoroutières, hôtelières, susceptibles de satisfaire les 24 pays participants à la compétition. À côté, il y a bien sûr la candidature algérienne, même si des doutes subsistent sur le fait que les dirigeants algériens pourraient se retirer de la course. La candidature commune entre le Bénin et le Nigeria a peut-être l'avantage d'être viable et visible avec une coopération entre deux États voisins, mais elle est déséquilibrée dans la mesure où le Bénin n'a qu'un seul stade pour l'instant homologué aux normes de la CAF. Et puis pour la Zambie, le déficit en termes d'infrastructure pourrait lui coûter l'organisation de la compétition. Concernant 2027, a priori, c'est la candidature tripartite Kenya, Tanzanie, Ouganda qui semble tenir la corde devant le Sénégal, en attendant éventuellement le retrait de la candidature égyptienne et voir dans quelle mesure, si l'Algérie venait à échouer par rapport à 2025 et se maintenait pour 2027, si l'Algérie pourrait, du fait que la CAN pourrait avoir lieu dans la même zone géographique lors de deux éditions consécutives, obtenir les suffrages des membres du comité exécutif de la CAF. A priori, la candidature du Botswana est plutôt de l'ordre du témoignage, testimonial, et ne devrait pas concurrencer celle qui semble pour 2027 tenir la corde. C'est la candidature tripartite qui a le mérite de toucher une zone du continent qui n'a jamais organisé la CAN et qui pourrait être répartie de manière plus équitable.
Merci Amine Birouk.
Voilà pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seduya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Washington va étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire au Niger après l'annonce par la France du retrait prochain de ses troupes du pays d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré donc le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. C'est dimanche que le président Emmanuel Macron a annoncé le retour à Paris de l'ambassadeur français à Niamey et le retour du Niger des 1500 militaires français. Cette décision intervient après un bras de fer de plusieurs semaines entre Paris et Niamey. Yacouba Ouédraogo a joint à Agadez, dans le nord du Niger, Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à Aïr Info.
Niamey et Agadez. Les régions du Niger sont à l'Est, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette affirmation de Macron signifie que les panafricanistes, où qu'ils sont, ont gagné. Parce qu'il faut le dire, c'était un bras de fer coriace, parce que Emmanuel Macron tenait mordicus à rester au Niger.
Ces 1500 soldats au Niger aidaient dans la lutte contre le terrorisme. Comment Niamey va se comporter pour le vide entre griffes dans les jours à venir?
Beaucoup de gens jettent la pierre sur cette coopération militaire française avec le Niger. Beaucoup de gens, que ce soit les citoyens lambda, mais pire, même certains analystes militaires rapportent que cette coopération militaire, elle est de nul effet sur la progression du terrorisme. Et vous conviendrez avec moi que les Nigériens ont tous été désagréablement surpris de voir que depuis le transvasement de Barkhane à Niamey, c'est-à-dire du Mali à Niamey, il n'y a eu que des attaques. Mais les terroristes n'ont fait que prendre de l'ampleur. Ils ont commencé à gagner des espaces au Niger, notamment des villages qui sont frontaliers avec le Mali. Et ça, c'est vrai, au temps du régime de Chu, cette information était tue.
Ce retrait annoncé aura peut-être un impact sur l'option militaire de la CEDEAO de faire partie les putschistes du pouvoir. Est-ce que cela va ralentir les dirigeants ouest-africains, cette annonce de Macron?
Toute l'opinion nationale, surtout nigérienne et même panafricaniste, savait pertinemment que la CEDEAO était dans un agenda qui n'était pas le sien, qui répondait exactement à ce que la France, qui vient de quitter le Niger, voulait que ça soit. Après le désengagement du tuteur Emmanuel Macron, les chefs d'État va-t-en-guerre de la CEDEAO vont aussi se calmer. Et je suis sûr, dans les prochains jours, nous verrons des délégations du Bénin, du Sénégal, du Nigeria, de la CEDEAO en un mot, vous devez revenir vouloir établir les bons termes avec les autorités nouvelles qui sont au Niger.
Monsieur Diallo, vous dites des chefs d'État vont en guerre. Je précise que la CEDEAO conserve aussi l'option diplomatique. Alors, il y a le ministre de la Défense des États-Unis qui a réagi, Lloyd Austin, disant que les États-Unis vont envisager les options futures suite au retrait de la France. On sait que les Américains interviennent également au Niger. Comment vous voyez la coopération entre le Niger et les États-Unis pour la suite après le retrait de la France?
Pour les Américains qui sont au Niger, ils sont ici à côté de moi à Agadez. Ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Nigériens. Tout le monde sait que tous les pays qui sont au Niger ont un agenda caché. Ils ont aussi des intérêts à privilégier les intérêts de leur pays. Si aujourd'hui, on a constaté tranquillement le dégagisme de la France, du Niger, eh bien, il faut le dire que ce dégagisme a été encouragé en sourdine par aussi une diplomatie américaine. Ça, c'est mon opinion à moi, mais c'est sûr que le Niger ne va pas rester orphelin des militaires français. D'autres militaires qui seront beaucoup plus certainement respectueux de la souveraineté du Niger, qui seront beaucoup plus coopératifs, vont venir au Niger et peut-être prendre la place laissée vide par la France.
L'analyste Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à Aïr Info. Le Bénin est déjà lourdement touché par l'annonce de la fin des subventions sur le carburant au Nigeria voisin. Les stations-service sont débordées et les usagers fuyant la montée en flèche du prix de l'essence vendue en contrebande aux abords des routes ne savent plus où donner de la tête, nous dit dans ce reportage notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Près de 40 décès, dont 2 bébés et une vingtaine de blessés. L'essence de contrebande vient encore de frapper, laissant de nombreuses familles dans le désespoir. Les flammes ont fait d'énormes dégâts. Les parents et proches des victimes ne s'en reviennent toujours pas.
Bon, moi j'ai perdu un petit frère.
En recoupant les informations, il paraît qu'un véhicule était en train de faire ses manœuvres quand subitement il y a eu une explosion. Et cette explosion a embrasé tout le reste.
Face à l'étendue des dégâts, un balai de personnalité a été observé, tant sur le site qu'au chevet des rescapés. Marie-Odile Lapotre-Sou est le préfet du département de l'OMI.
C'est un sentiment de consternation qui m'anime et regard aux pertes que nous avons enregistrées aujourd'hui du fait de l'essence frelatée. C'est triste et c'est le département qui perd une partie de sa population. Une activité qui conduit à la calcination des filles et fils de ce pays, je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là.
Mais comment est-on arrivé à l'implantation d'un tel entrepôt en pleine agglomération? Le maire de la ville joue la carte de la prudence et souligne que l'activité qui s'y mène est connue de tous, même des autorités.
Nous avons constaté avec amertume un ensemble de dégâts humains et matériels sur un site qui n'est pas en réalité un site clandestin, parce que c'est un site sur lequel les autorités compétentes viennent fréquemment pour les formalités d'usage en ce qui concerne les formalités douanières. Il n'y a que des motos calcinées, des hommes calcinés et tout le matériel utilisé est hors d'usage.
Diligenté par le gouvernement, le ministre de la Santé peint un tableau assez inquiétant. Benjamin Ompati.
Il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlure vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. Et je pense que le maximum sera fait pour que nous puissions garantir la vie sauve pour ces cas.
De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances pense qu'il est temps de formaliser le secteur. Romuald Ouadani.
Ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de le faire dans les conditions de sécurité totale.
Mais les Béninois sont-ils prêts pour une reconversion? Ceux qui s'approvisionnent et qui ne cessent de vanter les mérites de ce type de carburant sont-ils prêts? Autant de questions qui doivent être étudiées avant de changer les donnes d'une activité de laquelle dépendent des milliers de personnes. De Cotonou, Ginette Fleur, Dandé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, un très influent sénateur américain s'engage dans une nouvelle bataille judiciaire pour sauver sa carrière et éviter d'aller en prison. Vendredi, la justice fédérale a annoncé une mise en accusation du sénateur démocrate Bob Menendez, président de la puissante commission des affaires étrangères du Sénat. Le point avec Michel Joseph.
Le sénateur démocrate du New Jersey, Bob Menendez, fait face à une série d'accusations fédérales liées à la corruption. Il est notamment accusé d'avoir accepté des pots de vin pour enrichir trois hommes d'affaires et avantager le gouvernement égyptien, tout en aidant à résoudre les problèmes juridiques rencontrés par les associés de sa femme. Damien Williams est procureur fédéral pour le district sud de New York.
Les agents spéciaux du FBI ont exécuté des mandats de perquisition dans la résidence et le coffre-fort du sénateur Menendez et de Nadine Menendez dans le New Jersey. Une fois sur place, ils ont découvert environ $500,000 en liquide dans des enveloppes placées dans les placards. Une partie de l'argent se trouvait dans les poches de la veste du sénateur. Et ce n'est pas tout. Les agents ont également découvert beaucoup d'or.
Le sénateur Menendez avait déjà fait face à des accusations de corruption en 2017 mais les procureurs ont abandonné l'affaire après que les jurés ont été incapables de parvenir à un verdict. Le sénateur a nié avec véhémence le nouvel acte d'accusation, mais ce n'est pas une surprise pour Liz Batten, habitante du New Jersey.
Je ne suis pas surprise. Il y a beaucoup de collusion et sa femme est également impliquée. C'est sa deuxième inculpation pour corruption.
Le sénateur Bob Menendez affirme que les accusations sont une attaque politique contre sa carrière.
Des forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique. Je suis convaincu que cette affaire sera résolue avec succès une fois que tous les faits auront été présentés et que mes concitoyens du New Jersey verront la situation telle qu'elle est.
Malgré les dénégations de Menendez, les experts juridiques affirment que les accusations portées contre lui sont sérieuses. Écoutons Adam Kamenstein, ancien procureur fédéral, actuellement associé du cabinet Adams, Dirk Kamenstein.
Il s'agit d'un système de corruption classique. L'acte d'accusation incrimine le sénateur Menendez pour 3 chefs d'accusation distincts de complot. En combinant les 3 chefs d'accusation, le sénateur Menendez risque une peine d'emprisonnement maximale de 45 ans.
Les experts estiment qu'il pourrait être difficile pour le sénateur Menendez de survivre politiquement à cette inculpation. Quelques heures seulement après l'annonce du procureur, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a appelé son collègue démocrate à démissionner.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Toujours à Washington, le gouvernement américain est à moins d'une semaine d'une fermeture si la Chambre des représentants contrôlée par les républicains ne parvient pas à s'entendre sur une dizaine de projets de loi de finances qui ont jusqu'à présent divisé le parti. Certains républicains sont allés jusqu'à menacer d'éviction le président de la Chambre, Kevin McCarthy. Arash Arabasadi de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Gabi Dorsil.
Dans moins d'une semaine, le gouvernement américain fermera ses portes si le Congrès ne parvient pas à trouver un accord sur les projets de loi de finances qui, jusqu'à présent, ont mis en évidence les divisions au sein du Parti républicain. Un groupe de conservateurs d'extrême droite a menacé de se révolter et d'évincer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, à la suite d'un compromis sur les dépenses conclu entre lui et le président Joe Biden au début de l'année afin d'éviter un défaut de paiement de la dette nationale. Le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, dans l'émission This Week sur la chaîne télé ABC.
C'est parce que les républicains n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. N'oubliez pas que Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, et le président Biden ont conclu un accord et que cet accord était difficile pour toutes les parties. Franchement, il a été pour notre département. Il a fallu réduire certaines choses que nous voulions faire, certains fonds que nous allions utiliser pour améliorer les routes, les ponts et les aéroports. Mais nous l'avons accepté parce que c'était l'accord qui avait été conclu au début de l'année. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est de leur demander de respecter cet accord.
Ce même groupe de républicains qui sont membres du parti contrôlant la Chambre des représentants veut les coupes sombres dans les dépenses intérieures ainsi que dans le soutien des États-Unis à l'Ukraine dans sa guerre actuelle contre l'envahisseur russe. La semaine dernière, le président Joe Biden a accueilli son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche après que les deux hommes se sont exprimés lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. M. Biden a promis un soutien continu et inébranlable à l'Ukraine.
Le peuple ukrainien est prêt pour la lutte qui l'attend et les États-Unis vont continuer à se tenir à ses côtés.
Kevin McCarthy a laissé 300 millions de dollars de financement pour l'Ukraine dans un projet de loi sur les dépenses de défense qui fait l'objet d'un débat à la Chambre des représentants. C'est un geste qui n'est pas de nature à plaire à son aile d'extrême droite. Le député républicain Mike Turner était lui aussi l'invité de l'émission This Week sur ABC.
Je m'en prendrai à Kevin McCarthy n'importe quand et nous avons certainement encore du temps devant nous.
mais il est dans une position très difficile parce que les récalcitrants continuent de dire à Kevin McCarthy, ne présentez pas de projet de loi bipartisan à l'Assemblée. Nous ne voulons pas que vous utilisiez les votes des démocrates pour tenter d'éviter une fermeture, mais ils utilisent les votes des démocrates pour tenter de provoquer une fermeture. Et ces personnes, ces républicains récalcitrants, votent avec Nancy Pelosi contre les projets de loi républicains qui ont été déposés.
Le parti de McCarthy détient une faible majorité à la Chambre des représentants.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Limassi, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.